RMC, face aux grandes gueules.
Bonjour monsieur le député Charles Alloncle.
Merci de votre invitation, bonjour.
On a mis une petite musique de cirque, le cirque se termine aujourd'hui à l'Assemblée nationale alors ?
Je vois que vous ne faites pas exception avec l'ensemble de la classe médiatique qui par corporatisme préfère discréditer ces 6 mois de révélations de commission d'enquête. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais si je suis là, déjà merci pour votre invitation. J'ai fait très peu de médias d'ailleurs ces dernières semaines et ces derniers mois pour me consacrer vraiment sur le fond. On a fait un peu plus de 70 auditions, on a écouté près de 300 personnes. Je crois qu'il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites, donc je serais ravi de répondre à l'ensemble de vos questions.
Mais j'ai l'impression quand même, Charles Alloncle, que vous êtes tout seul. Même le président de la commission sur l'audiovisuel public, Monsieur Jérémy Patrilletus, vous accable. Il était sur une radio concurrente en début de semaine pour dire que finalement vous aviez transformé cette commission en tribunal politique. Comment ça se fait que vous vous retrouvez, alors vous avez parlé de la classe médiatique, mais un peu tout seul. Alors, vous avez le service public contre vous, mais vous avez même le président de votre propre commission qui vous critique.
Oui, vous savez, moi je vais refuser de tomber dans ce piège, de commenter les critiques des uns et des autres, parce que tout ça est fait à quelques jours du vote du rapport pour éviter de parler du fond, pour éviter de parler des révélations, pour éviter de parler de tout strike qu'on a mené, qui a permis au fond de lever le capot sur les 4 milliards d'euros d'argent public dépensé chaque année pour l'audiovisuel. Quand on parle et qu'on répond aux attaques, on ne parle pas par exemple des conflits d'intérêts qui minent l'audiovisuel public. On a pu le voir, il y a des dirigeants de France Télévisions qui basculent dans des sociétés de production après avoir empoché des chèques très importants d'indemnités de licenciement. Ça a été l'une des révélations de cette commission d'enquête. On ne parle pas des abus sur l'utilisation de l'argent public, par exemple des suites dans des palaces à Cannes de Madame Ernot et des dirigeants de l'audiovisuel public qui ont donné lieu d'ailleurs à l'ouverture d'une enquête du tribunal pour détournement de biens publics et abus de biens sociaux.
Donc en fait, vous gênez.
On ne parle pas de la bureaucratie.
Non, mais pourquoi le président dit ça? Pourquoi il parle de tribunal politique? D'ailleurs, vous dites vote d'un rapport, mais c'est pas sûr que votre rapport soit voté vu l'ambiance.
En fait, tout ça pour vous dire que on est pour que les téléspectateurs et les auditeurs comprennent, on est à quelques jours d'un vote très important qui est le vote du rapport qui conclut ces 6 mois d'enquête de la commission. C'est la première fois que l'Assemblée nationale fait une commission d'enquête sur le sujet de l'audiovisuel public. Je m'en étonne parce que ça représente une somme très importante. 4 milliards d'euros d'argent public, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture quand on sait par exemple que pour la sauvegarde du patrimoine, on attribue seulement 4,5% du budget.
D'accord, mais si ce rapport n'est pas voté.
Donc tout ça pour vous dire que plus on alimente des polémiques à quelques jours du vote du rapport, plus on crée un terreau favorable pour donner des arguments aux 31 députés membres de la commission d'enquête de ne pas le voter. Et je voudrais revenir sur un point.
Pour que les gens comprennent bien, s'il n'est pas voté ce rapport,
exactement.
S'il termine aux oubliettes, voilà, qu'est-ce qu'il va devenir?
Ce n'est pas que le rapport qui ne sera pas publié, c'est l'intégralité des vidéos, des auditions, des comptes rendus des auditions qui disparaîtront du jour au lendemain, notamment du site de l'Assemblée nationale, et qu'on ne pourra plus exploiter. Donc il y a un enjeu qui est immense, qui est énorme en ce moment, qui d'ailleurs est à la hauteur et à la proportion du déchaînement médiatique qui est en train de se produire en ce moment contre moi et contre globalement les travaux qu'on a fournis sérieusement depuis 6 mois. Puisque si le rapport n'est pas publié, on ne pourra plus diffuser et retrouver les vidéos de ces 70 auditions, on ne pourra plus retrouver les comptes rendus de ces 70 auditions, on ne pourra même plus relayer des révélations et des propos qui ont été tenus dans le cadre de ces auditions sous peine de poursuites pénales. Donc vous voyez, je voudrais simplement vous interpeller sur le fait que l'enjeu de jeter le discrédit dans ces derniers jours, la ficelle est quand même très grosse. Ils vont tous se déchaîner pour essayer d'obtenir un vote défavorable. Et moi, je ne veux pas répondre aux polémiques, je ne veux pas répondre aux attaques parfois très basses. Je veux qu'on se concentre sur le fond. Et je suis là pour répondre notamment à cette question. Quelles sont les révélations? Je sais que Patrick Cohen l'a posé. Je voudrais vraiment qu'on parle de ça et pas de la forme et pas des polémiques.
Parce que Patrick Cohen était assis à cette même place et il a cette question à vous poser. On va l'écouter.
Je serais curieux qu'il puisse nous dire réellement, en réalité, ce que sa commission d'enquête, il y a eu 230 personnes auditionnées quand même, a permis de révéler sur le fonctionnement de l'audiovisuel public, parce que moi je ne sais toujours pas.
Alors, qu'est-ce que vous avez révélé?
Moi, j'ai pas de doute sur la qualité et les compétences journalistiques de Patrick Cohen. Je pense qu'il a été parfaitement conscient et au courant des révélations faites. La première révélation, qui pour moi est le cœur de cette commission d'enquête, c'est les conflits d'intérêts qui minent l'audiovisuel public avec les sociétés de production privées. Ce qu'il faut que les Français sachent, c'est que France Télévisions attribue près d'1 milliard d'argent public chaque année à des sociétés de production privées pour produire les propres contenus de France Télévisions. Alors que France Télévisions dispose de 9000 salariés, payés en moyenne 72 000 euros par an, qui les situe dans les 9% des Français les mieux rémunérés chaque année.
Mais c'est dans son cahier des charges. Et la France Télévisions a l'obligation de faire travailler des sociétés privées.
À hauteur de près de 300 millions, et là on est sur près de 900 millions, donc on voit que ce cahier des charges est plus qu'explosé et que ces sociétés de production privées en profitent allègrement, et ça donne lieu à des cas de conflits d'intérêts extrêmement préoccupants.
Il y a des appels d'offres ?
Non, il n'y a pas d'appel d'offres, parce que malheureusement, ce sont des œuvres considérées comme des œuvres de création, et donc ça échappe au procédé classique de marché public, ce qui appelle d'ailleurs à beaucoup de schémas de déviance et à beaucoup de schémas de conflits d'intérêts. Donc je vais vous citer deux exemples, c'est le cas par exemple de Nathalie Darigrand, qui a été directrice de France 5, qui a signé les contrats parmi les plus importants de France 5, qui a une société de production privée, Together Media. Elle s'est fait licencier de France Télévisions. Elle a pris une indemnité de licenciement de près de 400 000 euros pour se retrouver quelques mois après à la tête de cette même société de production privée. Pour autant, les liens n'étaient pas brisés avec France Télévisions parce qu'elle a triplé le montant de contrats passés entre cette société de production et France Télévisions.
Ça manque de garde-fous en fait, faudrait fixer des règles en la matière.
Ça manque de garde-fous et on voit que l'argent public aujourd'hui est fait pour alimenter des contrats de sociétés de production privées. Et moi je m'étonne qu'une grande partie de la gauche et des macronistes qui s'élèvent contre le risque de privatisation ne s'élèvent pas de la même façon contre la privatisation qui est en cours aujourd'hui chez France Télévisions, puisque l'immense majorité des contenus de France Télévisions est délégué à des sociétés de production privées qui ont des intérêts financiers. Monsieur Niel et Monsieur Pigas sont fondateurs et actionnaires de la première société de production privée, Media One, qui fournit des contenus de France Télévisions à hauteur de 110 millions d'euros par an. Donc, à nouveau, on va prendre un point de recul. On voit Le Monde, le Huffington Post, le Nouvel Observateur, Les Jours, tous les médias de Monsieur Niel et Monsieur Pigas qui se déchaînent contre moi en ce moment pour essayer de me discréditer, il y a des intérêts financiers qui sont énormes dans l'affaire. Et plus je me suis intéressé à ces intérêts financiers, plus je me suis intéressé à ce milliard de contrats passés chaque année, plus j'ai subi
Vous voudriez que le public produise tout ? Parce que c'est étonnant, parce que vu votre parcours politique et votre positionnement politique, vous êtes plutôt la droite libérale, si j'ai bien compris. Ce procès que vous faites aux sociétés privées me paraît assez incongru en fait, parce que on peut déléguer au privé
une partie du
travail, peut-être parce que ces sociétés privées font mieux que ce que pourrait faire le public.
Mais c'est du copinage pur et simple. Il n'y a aucune règle et aucun respect des marchés publics. On donne des contrats à des grosses sociétés qui sont détenues par quelques personnes.
Qui
ont un pouvoir médiatique, mais qui ponctionne l'argent public. Je vais vous citer un exemple. C'est l'exemple, par exemple, de Nagui, qui est co-actionnaire de Banijay, qui est la deuxième société à profiter des contrats de production chaque année, à hauteur de près de 90 millions d'euros par an. On a pu voir dans l'audit de production de Nagui que sur sa simple émission, N'oubliez pas les paroles, il est rémunéré l'équivalent d'1 500 000 pour son émission. Et dans le contrat, dans l'audit de production, on a pu voir qu'il s'était versé une rémunération de près de 400 000 euros supérieure à ce qui avait été convenu au devis initial.
Mais il rapporte de l'argent, puisqu'il faut quand même rappeler que le service public, et notamment France 2, est financé en partie par de l'argent public, l'argent de nos impôts, mais aussi par la publicité. Et Nagui est d'ailleurs programmé au moment où il y a la publicité. Donc, il doit faire de l'audience pour apporter de l'argent. Et il rapporte de l'argent. C'est d'ailleurs ce qu'il vous a expliqué lors de cette audition.
Non, mais pardon, le rôle de cette commission d'enquête, c'était d'enquêter. Il y a des soupçons de favoritisme énormes qui ont d'ailleurs valu une condamnation à Nagui et à sa société de production dans les années 90. C'était une condamnation pour comportement déloyal et favoritisme avec France Télévisions. On était dans les années 90. C'était la fameuse affaire des animateurs producteurs, des voleurs de patates. Il y avait Jean-Luc Delarue, il y avait Arthur. Et on voit que 30 ans après, on n'a pas retenu les leçons de cela. Si je vous cite cet exemple, c'est parce qu'on voit aussi que l'ancien numéro 2 de Banijay, Takis Candilis, a basculé de Banijay Société de Production à France Télévisions. Il est devenu numéro 2 de France Télévisions. Et là, dans les deux années où il est officier comme numéro 2, il a fait exploser les contrats de Nagui, qui lui-même est coactionnaire de la société de production depuis laquelle Monsieur Candice venait. Et ça ne l'a pas empêché de faire simplement ça. Il est resté 2 ans à la tête de France Télévisions. Il a fait passer, par exemple, le nombre de primes de Nagui de 3 à 11 le samedi en l'espace de quelques mois.
Mais ça marche.
Il est revenu,
oui,
il est revenu dans sa société de production.
Les émissions de Nagui fonctionnent, elles font l'audience. Donc, le contrat est rempli, en quelque sorte, puisque c'est ce qu'on lui demande.
Quand vous voyez des clauses qui expliquent que les contrats passés par cet animateur-producteur seront favorisés par France Télévisions, quand vous voyez les montants, les montants sont quand même colossaux, c'est à peu près 2500 euros pour 30 minutes d'émission. Il y a 14 émissions qui sont produites chaque jour, pour N'oubliez pas les paroles. Donc ça fait un montant de 35 000 euros par jour perçu par Nagui, un montant sur une saison et une émission de N'oubliez pas les paroles, il y a 1 500 000 euros.
Pour vous, il est trop payé.
Le rôle de cette commission d'enquête, c'est de voir à quel moment des personnes s'enrichissent sur le service public, sur l'argent des Français, sans garde-fou, sans marché public, sans respect strict des règles d'appel à concurrence. Ça a été tout le rôle de cette commission d'enquête. Et vous voyez, plus je m'y suis intéressé, plus j'ai creusé les contrats passés et les absences de garde-fou, plus on a commencé à se déchaîner et à me taper dessus. Donc voilà, je vois aussi que le cœur de cette commission d'enquête a été la passation de ces contrats. Et il était temps, une bonne fois pour toutes, c'était la première fois qu'à l'Assemblée nationale on s'intéressait à ça. Quand on parle de l'argent des Français, c'est important de faire preuve de la plus grande vigilance.
Moi, je vais vous dire, monsieur le député, je suis horrifié du nombre d'attaques que vous subissez. Quand il y a eu les commissions Benalla, les commissions d'enquête Benalla, les commissions d'enquête sur le Covid, les commissions d'enquête sur le Mediator, sur la fraude fiscale, tout le monde a considéré qu'il était légitime pour le Parlement de s'intéresser à ces sujets. Quand vous vous intéressez à un sujet avec l'ensemble de la commission d'enquête qui est parfaitement légitime, quand vous mettez en lumière les sommes, les méthodes, etc., eh bien, j'ai le sentiment que vous gênez une sorte d'état profond. Moi, ce que j'appelle la gauche culturelle, des gens qui se sont arrogés beaucoup de contrats, qui tiennent beaucoup de choses dans l'audiovisuel public, beaucoup d'argent public pompé. Alors, moi, je vais vous dire, je suis heureux que la commission d'enquête ait pu permettre de mettre en lumière des chiffres. On vous reproche d'être un juge. Vous considérez que vous êtes un parlementaire qui met en lumière des choses pour faire comprendre aux citoyens que je suis, ou alors que vous êtes un juge ?
Dans commission d'enquête, je vous remercie pour votre question, dans commission d'enquête, il y a enquête. Il faut que les Français comprennent que c'est pas une table ronde. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est défini dans la Constitution, c'est d'évaluer les politiques publiques et de contrôler l'action du gouvernement. C'est d'ailleurs un rôle
que les députés... ou un procureur.
C'est d'ailleurs
ou un procureur.
Mais ni l'un ni l'autre, je suis un parlementaire qui effectue sa mission inscrite et consacrée dans la Constitution, qui est d'évaluer les politiques publiques et de contrôler l'action du gouvernement. Bien souvent, les députés se sont réduits à une seule et simple mission de lever la main dans l'hémicycle pour voter les lois. Ils ont oublié l'évaluation des politiques publiques. Ils ont surtout oublié comment on pouvait remettre de l'efficacité dans les dépenses publiques et dans les impôts des Français.
Pour une fois qu'on sait ce que les parlementaires font parce qu'on le regarde,
Fatima.
C'est pas mal.
Fatima.
Vous dites que votre rapport risque d'être enterré parce que finalement tout le monde se ligue contre vous. Mais est-ce que votre rapport ne risque pas d'être enterré à cause de vous ? Dans le sens où, moi, ce que j'entends, quand j'entends Jérémy Patrier, le président.
Jérémy Patrier, voilà, l'étude, président de la commission.
Le président de la commission qui prend des distances avec vous, ce qu'il vous reproche, ce n'est pas ce que vous dites, c'est finalement aussi votre style. L'idée que vous ne vous mettez pas au service d'une cause, mais vous avez mis cette cause à votre service pour vous créer un nom, pour devenir finalement un personnage. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent cela, justement?
Bon, vous savez, je pense que je n'avais rien à gagner à tout ça. Quand on regarde de près les 4 milliards d'euros d'impôts des Français qui sont consacrés à l'audiovisuel public, vous pouvez être sûr que vous allez vous mettre toutes les chaînes publiques à dos. Ça a été le cas depuis le premier jour. Vous allez vous mettre à dos aussi tous les actionnaires et fondateurs de sociétés de production qui prennent 1 milliard d'euros d'argent public chaque année par France Télévisions. C'est le cas de M. Niel, de M. Pigas, qui, lors de leur audition, se sont déchaînés par des outrances verbales et une forme de violence aussi dans le cadre de cette audition, alors qu'on a auditionné nombre de patrons d'entreprises qui se sont parfaitement tenus et ont gardé leur sang-froid. Je n'avais rien à gagner. Je pense qu'aujourd'hui, vous le voyez, dans cette dernière ligne droite, juste avant le vote du rapport, vous pouvez voir une bonne partie de la presse publique subventionnée et aux ordres de M. Niel et M. Pilias se déchaîner contre moi. Donc je savais que je n'avais rien à gagner, mais je pense que c'est salutaire. C'était la première fois que l'Assemblée nationale ouvrait le capot sur l'utilisation de ces 4 milliards d'euros d'argent public. Il faudra le faire pour bien d'autres politiques publiques, pour bien d'autres dépenses, pour bien d'autres institutions, hauts comités, commissariats, parce qu'on est en train de se déclasser, on est en train de perdre en souveraineté. Les intérêts de la dette en France nous déclassent. Ça va nous coûter dans quelques mois, quelques années, 100 milliards d'euros par an. Donc si on ne fait pas une sorte d'électrochoc pour retrouver de l'efficacité dans la dépense publique, si on ne dit pas aux Français, demain vous allez payer moins, mais vos services publics vont se porter mieux parce qu'on va arrêter avec la bureaucratie, on va arrêter avec les conflits d'intérêts, on va arrêter avec les dépenses inutiles, on n'arrivera pas à sauver notre pays. Donc j'assume de prendre ce risque-là, j'assume que matin, midi et soir, on me casse, on essaye de me discréditer parce que je m'attaque aussi à des gens qui possèdent des médias très puissants et qui feront tout aussi pour me donner une image qui discréditera à la fin le rapport. Mais je pense honnêtement que c'est de salubrité publique.
Une dernière question, parce que vous faites partie d'une famille politique qui a toujours tapé sur l'audiovisuel public de gauche, l'UDR, qui a comme objectif, si jamais ils arrivent au pouvoir, de privatiser les services publics. Donc vous êtes parti avec un biais idéologique et une idée en tête. Donc finalement, vous êtes venu vous faire le service public de gauche et vous estimez être de gauche, et vous avez pris le biais des dépenses publiques et de l'allocation des 4 milliards pour vous dire « je vais me faire l'audiovisuel public ».
Absolument pas. Depuis le premier jour
en tant que homme de droite qui pense que l'audiovisuel public est de gauche.
Depuis cette première conférence de presse, cette première audition de la commission d'enquête il y a 5 mois, j'ai rappelé publiquement que je croyais aux missions précieuses de l'audiovisuel public et que le rôle de cette commission d'enquête, c'était de jeter un projecteur cru sur les dérives, sur les dysfonctionnements, pour mieux sauver l'audiovisuel public. Aujourd'hui, il est menacé de disparition. Aujourd'hui, on a 81 millions d'euros de déficit qui ont été cumulés depuis 2017 par France Télévisions. Oui, mais une trésorerie qui est passée de plusieurs dizaines de millions d'euros qui est devenue négative chez France Télévisions et des capitaux propres qui sont inférieurs à la moitié du capital social. Selon la Cour des comptes, France Télévisions est menacée de faillite et de disparition. Moi, je crois au service public. Je crois à ces missions précieuses et je pense que la seule façon de les sauver, c'est de créer un électrochoc, que les dirigeants de l'audiovisuel public se rendent compte de cette turpitude pour, une bonne fois pour toutes, mettre en place de recommandations et le sauver. Je ne me suis jamais prononcé pour la privatisation. Peut-être une différence que j'ai avec un certain nombre de personnes de mon camp politique. Mon seul rôle depuis le début, c'est de mettre un terme définitif à ces dérives qui minent, notamment les conflits d'intérêts, qui minent l'audiovisuel public. Alors, il y a un certain nombre d'entorses au pluralisme, à l'honnêteté de l'information, à la neutralité, qu'on a pu constater. C'était l'une des trois dimensions de la commission d'enquête. Il faudra aussi les résoudre. Je veux pas être caricatural. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'à la fin, dans les 4 milliards d'euros d'argent que les Français mettent chaque année, leur service public fonctionne davantage.
Charles Alloncle, vendredi, à votre place, nous recevons Mathieu Pigas, l'un des actionnaires de Media One qui travaille pour le service public. Vous l'avez d'ailleurs auditionné récemment. Si vous aviez une question à lui poser à Mathieu Pigas.
Moi, j'aimerais simplement lui poser une question. Au-delà des outrances qu'on a pu voir, notamment lors de son audition à Elsa Géniel, il y a plusieurs questions majeures auxquelles il n'a pas répondu. Il y a, est-ce que Media One, qui pourtant est détenu par un fonds d'investissement américain qui est actionnaire majoritaire, pourquoi il ne veut pas fournir la preuve que KKR, fonds d'investissement américain, est minoritaire? Pourquoi est-ce qu'on a constaté dans les audits de production qu'il y a une surfacturation systématique de Media One, dont Mathieu Pigas est fondateur, de 10 points? Il y a un écart de 10 points entre la marge constatée à la fin et ce qui est initialement prévu par le devis. Pourquoi est-ce que Monsieur Pigas a mis son groupe Combat, un groupe médiatique dont il assume la bataille culturelle et politique? Pourquoi il a mis le groupe Combat à la tête et actionnaire du groupe Media One qui produit des émissions du service public? Pourquoi, par exemple, le groupe Media One invite Mathieu Pigas et Xavier Niel, par exemple, pour faire la promotion de sa Freebox sur une émission du service public? C'est autant de questions très importantes, parce que Media One, je le rappelle, est la première société de production qui bénéficie des contrats avec France Télévisions. C'est 110 millions d'euros par an. Merci. Et malheureusement, je suis très déçu, mais on n'a pas eu la réponse à ces 4 questions fondamentales. Eh bien, peut-être qu'il pourra vous répondre.
On verra s'il y a des réponses vendredi.
Merci Charles Alloncle, dernière journée de la commission aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Merci d'être passé par les GG.